commencerai par quelques lectures. La première se trouve dans Colossiens 1, à partir du verset 15. Vous n'êtes pas obligé de suivre dans la Bible, mais que nos cœurs soient ouverts, en tout cas, que nos esprits soient ouverts. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont Paul, qui écrit ce texte, est devenu serviteur. Je continue en hébreu, à partir du verset 23. Retenons fermement, il est question de retenir fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Et alors, pour ce programme, je vais en 2 Pierre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à la foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alors il a été question dans ces 2 derniers textes de nous inciter à de belles œuvres et tout le programme que nous propose Pierre là nous invite à ne pas rester stérile dans l'œuvre de Dieu. Alors je vais parler un petit peu aujourd'hui des œuvres. Et si j'ai commencé par ces textes, c'est parce qu'on a été appelé à persévérer. On a été appelé à persévérer, à ne pas rester stérile également. Et je voudrais encore rappeler, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et si on va dans Jacques, voilà ce que nous dit Jacques. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques », à quoi cela leur sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Et si on regarde bien ce texte, je ne crois pas que Paul veut vraiment parler de nourriture et de... Il fait simplement un parallèle et il dit que si on ne nourrit pas la foi, si on n'accompagne pas la foi d'œuvres, elle reste stérile. Elle reste stérile. Maintenant, quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi, elle a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté pour justice. Il a été même appelé ami de Dieu. Et je mets en parallèle ce texte d'Abraham, qui parle d'Abraham, avec un texte dans Romains qui pourrait être mal compris et vouloir dire le contraire, mais en fait, ça va dans le même sens. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture? Abraham eut confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Ces deux textes peuvent paraître un petit peu ambigu, puisque l'un dit que Abraham, c'est par ses œuvres qu'il a été considéré comme que Dieu a approuvé que sa foi a été comptée pour justice parce qu'il a agi avec les œuvres, et l'autre nous dit que c'est pas par ses œuvres mais que c'est par sa foi. Mais c'est tout à fait la même chose qui est dit là. Simplement, la foi a été nourrie, la foi s'est mise en route par des actions qui accompagnent cette foi, par des actions. Il obéit à Dieu. Il ne fait pas que croire ce que Dieu dit, mais il agit en fonction. Et là, la foi est nourrie et elle est comptée pour justice. Alors, je me suis posé personnellement la question, parce qu'on parle d'œuvres, mais quelles sont les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi. Pour moi, la première œuvre de la foi, c'est par exemple d'oser un jour, la première fois que quelqu'un parle à Dieu, c'est une œuvre de la foi. Je prie, oui, puisque Dieu m'y invite, je crois, donc je prie. Et si je prie, c'est déjà une œuvre de la foi de prier. C'est se mettre en route sur la base de ce que dit Dieu, de notre foi en ce que dit Dieu. Agir sur la parole. Alors bien sûr, à agir sur la parole éclairée par le Saint-Esprit, parce qu'on sait aussi que la lettre tue, et il y a des gens qui, en voulant agir sur la parole, ont fait des désastres, on est bien d'accord. Mais éclairé par le Saint-Esprit, tout ce qu'on pourra faire en agissant sur la parole, eh ben, sera des œuvres de la foi. Pardonner, c'est une œuvre de la foi, pardonner. Si je pardonne, c'est complètement dans ce monde aberrant de pardonner à quelqu'un qui, enfin, ça va complètement à l'encontre de toute logique, mais puisque Dieu me le dit, je peux lui faire confiance. Si je pardonne, je fais une œuvre de la foi. Alors, certains diront, ce que je suis est plus important que ce que je fais. On peut se cacher derrière des fois ces mots-là, hein. Mais rappelons-nous que ce que je suis est plus important que ce que je fais. Rappelons-nous que ce que nous sommes tous pécheurs, sauvés par grâce. Sauvés par grâce pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc ce que je suis, c'est simplement pécheur, sauvé par grâce, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Je vais lire pas mal de textes dans la Bible ce matin, je m'excuse. Enfin, je ne m'excuse pas, mais je vais dire, vous n'êtes pas obligé de chercher à chaque fois. Hein. Alors, Tite 2, 14-15, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié et zélé pour de belles œuvres. » Dit ces choses et encourage, Paul encourage Tite à dire ces choses. À dire ces choses, on a été purifiés et zélés pour de belles œuvres. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et dans Timothée, aux riches de ce monde, et si je dis riche de ce monde, je m'inclus dedans, parce que très honnêtement, nous sommes tous ici présents des gens riches par rapport à beaucoup de gens sur la surface de la terre. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, et de se montrer généreux, prêt à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Et dans 2 Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Je lis encore un texte en Galates. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Moi, personnellement, j'essaye de m'administrer un thermomètre d'empathie. Et des fois, il y a la sonnette d'alarme qui sonne dans mon esprit. Hein. C'est quand je passe à un rond-point où il y a des réfugiés. Des fois, je suis allé à Strasbourg l'autre jour, toute la famille. Je suis passé en début d'après-midi pour emmener ma fille à un examen, il me semble. Et quand je suis repassé le soir, la nuit était tombante. Il y avait encore toute la famille sur le rond-point. Alors, vous savez, moi, à mon travail, on a des fois des discussions comme ça, et puis ce qui ressort souvent, c'est, tu vois bien, chez nous, au HLM, sur les pigeons, ceux qui nourrissent les pigeons, ben, les pigeons s'installent. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils partent? Il faut leur couper les vivres. Et c'est la pensée, c'est une théorie facile hein, pour se séparer des... Philippe rigole dans le coin parce qu'il travaille avec moi. Mais c'est une pensée facile pour nous, pour un petit peu nous. Mais on peut avoir un autre regard aussi sur ces personnes qui ont fui leur pays. Je prends ça comme exemple, hein, c'est un peu grossier, mais oui, parce qu'on voit à tous les ronds-points, excusez-moi, des gens qui mendient. Certains ont fui leur pays pour fuir pour fuir la charia, d'autres pour fuir, et ils ont tout quitté. C'est, rappelons-nous que c'est nos semblables, qu'on pourrait nous être à leur place aujourd'hui. Et on peut les voir avec un autre œil. Et rappelons-nous que la règle d'or que nous a laissé le Seigneur Jésus, c'est d'agir envers les autres comme on aimerait qu'on agisse envers nous-mêmes. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous-même. Alors la pratique des bonnes œuvres, ce n'est pas une garantie de santé spirituelle. Parce qu'on peut faire des bonnes œuvres très charnellement. Et pour avoir été dans quelques associations caritatives, on le voit bien, la jalousie, les querelles, les intérêts personnels, la gloriole pour d'autres, enfin voilà. Donc c'est pas du tout une garantie de santé spirituelle que de faire des bonnes œuvres. Certains diront « l'important n'est pas ce que je fais, mais dans quel état d'esprit je le fais ». Et c'est vrai que la piété doit toujours accompagner les œuvres. Sinon, on se fatigue, on se lasse. On se fatigue, on se lasse, et il y en a peut-être qui sont fatigués, lassés. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne sont plus remplis de l'Esprit de Dieu. Et ça ne veut pas dire non plus que quand on est fatigué, on ne doit pas honorer un rendez-vous, par exemple, ou un service dans lequel on s'est engagé. Mais on voit bien que quand on lit en Apocalypse, lorsqu'il est question des églises, il est dit: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La pratique des bonnes œuvres ou l'engagement n'est pas une garantie de santé spirituelle dans ce sens. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits et les sept étoiles: je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Il y a des gens qui sont très zélés dans les œuvres. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé en toi d'œuvre parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu ne saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Voilà, sur les œuvres, sur l'engagement, je dirais aussi que les œuvres, entre guillemets, religieuses ne doivent pas amputer nos responsabilités familiales, par exemple. Mais en tout cas, ne laissons jamais les œuvres ou le service se déshydrater de la présence du Saint-Esprit. Ne laissons jamais les œuvres ou l'engagement se déshydrater de la présence du Saint-Esprit. Là, on est en danger, en grand danger, je pense. Parce qu'en plus, comme le disait dans l'Apocalypse, on se croit vivant et les autres peuvent nous prendre pour vivants alors que nous sommes morts. L'homme et la femme ont besoin de se sentir utiles. C'est un besoin d'épanouissement. Quelqu'un qui ne se sent pas utile, il n'est pas épanoui. Et en Proverbe 12, 27, c'est écrit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Toujours dans les Proverbes, non, dans l'Ecclésiaste, pardon. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. La main des personnes actives dominera, tandis que la main nonchalante sera astreinte à la corvée. Quelqu'un qui est paresseux, nonchalant, tout lui semble une corvée. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui et ben tout lui semble nécessaire et puis il agit avec joie. Alors, tout ça, ce n'est pas en opposition avec le besoin de repos. Et s'il y a des aînés au milieu de nous qui ne se sentent pas du tout agressés par ces propos et qui comprennent spirituellement ce que je veux dire par là. Et de toute façon, je pense que tout le monde peut être encouragé par ces paroles, parce que il n'y a pas d'âge. Comme dit, prier, c'est une œuvre de la foi. Je vais lire quelque chose dans les Proverbes encore. Proverbe 6. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir, voilà que la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Et dans un autre proverbe, 19 au verset 15, la paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'homme nonchalant connaîtra la faim. Celui qui garde le commandement se garde lui-même, celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Ainsi, frères bien-aimés, dit Corinthiens, 1 Corinthiens 15, soyez inébranlables et travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Là, j'ai dû perdre un papier. Non, c'est bon. Excusez-moi. L'histoire de l'Église nous donne quelques encouragements. Et j'aimerais vous lire un passage dans un livre là que j'ai trouvé. Sur l'histoire de l'Église, les diverses formes de réveil qui se sont manifestées au XIXe siècle allaient produire un renouveau profond de l'Église chrétienne. Qu'ils aient été accueillis favorablement ou non, le réveil avait eu de toute manière pour résultat de sortir toutes les Églises de leur torpeur et de leur quiétude satisfaite. Les dogmes, les habitudes, les liturgies, comme les instructions, étaient contestées et examiné à la lumière de la parole de Dieu. De nombreux chrétiens, qui n'en portaient que le nom, sans en connaître la force, rencontraient le Christ vivant et changeaient radicalement à son contact leur manière de vivre et se trouvaient tout à coup pleins d'ardeur pour travailler à l'avancement du règne de Dieu. Dans toute cette action, les croyants discernent l'action du Saint-Esprit qui préparait son Église à accomplir au XIXe siècle, la grande mission de propagation de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'était l'heure favorable en raison de la primauté scientifique et technique européenne et anglo-saxonne. Cette primauté n'aurait qu'un temps et son action, et sous l'action du Saint-Esprit, l'Église chrétienne sut saisir cette occasion pour développer d'une manière extraordinaire son œuvre missionnaire. Le chef de l'Église, c'est-à-dire Christ, préparait aussi les jeunes générations chrétiennes à une piété vraie et profonde, capable d'affronter victorieusement les lourdes épreuves qu'allait frapper le monde au XXe siècle avec les grandes guerres embrasant les continents entiers, l'expansion des régimes totalitaires et la persécution des chrétiens qui en est résulté, et enfin le bouleversement de toutes les conceptions philosophiques et morales d'inspiration chrétienne qui se poursuit depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Ainsi, le réveil du XIXe siècle a porté de nombreux beaux fruits, soit sur le plan de l'action charitable et sociale, soit par l'évangélisation et la mission aux extrémités de la terre, soit enfin par diverses unions et associations groupant les mêmes et différentes églises qui manifestaient l'unité de l'Église de Jésus-Christ en obéissant aux Saintes Écritures. Le renouveau de la foi se traduit non seulement par un amour toujours plus grand pour Jésus-Christ, mais aussi par l'amour du prochain, le discernement de ses souffrances, la volonté de tout faire pour lui venir en aide, soit personnellement, soit par des réformes sociales. Le réveil suscita donc au sein des nations dites chrétiennes un christianisme social en vue de réformer les mœurs et les institutions. Il créa aussi de nombreuses œuvres de charité et d'assistance. Et là, je vous donnerai quelques noms que vous connaissez. Moody, par exemple, il en est question dans ce livre. Spurgeon, pour l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Les questions de Saint François d'Assise. Il est question de Georges Müller avec ses orphelinats. Vous en avez tous entendu parler, je pense. De Wilberforce, de Martin Luther King, qui travaillait par rapport à la condition des Noirs. De William Booth, qui a fondé l'Armée du Salut. De Henri Durand, qui est le fondateur de la Croix-Rouge, de Lucien Rochat, qui est le fondateur de la Croix-Bleue, de Baden-Powell, qui est le fondateur du scoutisme, de Jean-Frédéric Oberlin. Vous le connaissez, Jean-Frédéric Oberlin ? Je vais vous en parler un petit peu, parce que c'est un Alsacien. Il est né à Strasbourg, et il est mort à Waldersbach. Alors, Oberlin reçut son éducation à l'université de Strasbourg, porté par ses goûts, par une grande piété vers la carrière ecclésiastique. Il étudia la théologie et se fit remarquer parmi ses condisciples non seulement pour son intelligence et son application, mais aussi par un enthousiasme religieux qui se rencontre rarement chez les jeunes de son âge. Alors il a été hébergé chez un chirurgien, où il a pu, pendant 3 ans, il a pu joindre à ses connaissances d'agriculteur, acquises dans sa jeunesse, des notions de médecine. Il se vit offrir la place non recherchée du pasteur de Waltersbach, un tout petit village de 90 habitants, dans la vallée de la Bruche, au banc de la Roche, sur le versant du Champ du Feu. Et il s'est appliqué, tout en faisant son ministère, a contribué à améliorer le bien-être de la population déshéritée de cette région. Et si on lit je vais pas vous lire toute sa bibliographie, mais il a commencé par restaurer des routes pour que des paroissiens puissent venir à l'église. Il a pris la pioche et puis ils ont restauré des routes avec l'église, ils ont fabriqué des chemins pour pouvoir venir à l'église. Il a développé au niveau de l'agriculture énormément le territoire. Il a reconstruit l'école. C'est lui qui a fait la première école maternelle, il me semble. Enfin, c'est ce que dit ce texte, en tout cas. Il a encouragé les jeunes à se former pour être maçon, pour être boulanger, il a vraiment touché à tout, cet homme, c'est assez incroyable, tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. Il a même créé des caisses d'emprunt pour que les agriculteurs puissent emprunter sans se ruiner. Et ça a tellement bien marché qu'il s'est vu desservir une médaille d'or par la Société Centrale de Paris, donc de son petit village de Waldersbach. Et ils ont pris pour modèle sa manière d'agir pour en faire quelque chose de national. Il y avait aussi près d'un siècle que dans son canton plaidait contre un ancien seigneur au sujet de droits de propriété et d'usage dans les forêts qui couvraient la montagne Même la révolution n'avait pas mis fin à ces contestations ruineuses. Après avoir préparé de loin ses paroissiens, tant dans la conversation que depuis la chaire, il parvint à amener un arrangement qui fut signé par le préfet du Bas-Rhin. Il a réussi à ramener la paix là où il régnait des tensions et des querelles depuis bien longtemps. Alors la population qui comptait 90 euros à Waldersbach a atteint 5 à 600 40 ans plus tard. Forcément, avec le développement qui a été administré, on avait envie d'y vivre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Oberlin encore? L'influence bienfaisante d'Oberlin se manifesta encore par de nombreux actes. Il vendit son argenterie pour contribuer à l'œuvre des missions. Ému de compassion par le sort des esclaves noirs, il renonça à l'usage du sucre et du café, qui lui semblait arroser leur sang. Oberlin a donné Charité comme deuxième prénom à ses filles Mariette et Louise. Voilà, il a organisé des collectes de vêtements. Il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Ses sermons étaient simples, quoique forts. Ils étaient rédigés avec grand soin d'après la Bible. Et à sa mort, protestants et catholiques ont été affectés par sa mort parce qu'ils ont été impactés par son passage. Ça me fait un peu penser à M. Dupré, parce que effectivement, protestants, catholiques, évangéliques ont été impactés par son passage également. Alors on n'est pas des grands missionnaires, on n'est pas des grands hommes de Dieu. Mais je pense que Dieu nous demande que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous savez, moi, j'ai été très béni par un frère qui m'a... J'ai été embêté. Je ne peux pas tout vous raconter, mais j'ai reçu une voiture de ma mère et des voitures à entretenir, c'est compliqué. Et j'avais les courroies de distribution à faire sur mes deux véhicules et je n'avais pas les moyens pour les faire. Eh bien, j'ai un frère qui m'a fait tout ça gratuitement. Il m'a dit, écoute, si tu veux, ta femme travaille à l'école, je sais que vous avez bon. Hop, il m'a fait tout ça. Et un mois après, mon fils plante la voiture dans le décor et achève quasiment la voiture, enfin beaucoup de pièces cassées, bref. Il me dit, écoute, je te refais ça gratuitement. On a dû redémonter la courroie de distribution parce qu'il y avait la pompe à eau. Mais si vous voulez, je ne sais pas, il y en avait pour 3 000 ou plus euros que je n'aurais pas pu sortir. Et ce frère, ce n'est pas son métier, mais il est doué. Et il a mis au service des autres le don qu'il a reçu. Et je peux vous assurer que j'ai remercié Dieu pour ce frère. Et on a chacun des dons différents qu'on peut mettre au service des autres. Je voudrais vous parler, dans la lignée de ce qui a été dit, de quelque chose sur lequel on travaille avec les trois églises en ce moment et avec l'école chrétienne. C'est la création d'une association familiale protestante. Je pense qu'il y a des personnes qui en ont déjà entendu parler. Une association familiale protestante, c'est une association qui s'inscrit directement dans la lignée du christianisme social et qui peut permettre peut-être à des membres d'église de sortir un petit peu de... Vous savez, il y a eu le Covid, on s'est replié sur nous-mêmes, on s'est installé et de sortir peut-être aussi de la boulimie de réunionnite et de messages théologiques pour un petit peu rendre un petit peu vivant aussi notre foi par des actions. Et cette association agit en direction des familles dans différents pôles, éducation, solidarité, formation. Je vous donnerai par exemple quelques exemples. Dans la solidarité et l'écoute, l'accompagnement social, l'alphabétisation, la solidarité d'urgence alimentaire, vestimentaire. Dans la formation, il est question aussi d'action dans la cité, d'action préventive également. Et je vous dis juste ça parce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre doucement. On est en train de travailler sur les statuts et ça va voir le jour probablement à la fin de l'année. Et pour vous dire aussi, c'est devenu, cette association familiale protestante est devenue l'association culturelle de l'Assemblée de Dieu de Mulhouse. Ils travaillent, comme nous on a Acte 6-8, c'est devenu leur association culturelle. Et on travaille sur ça pour Saint-Louis. Et là, c'est individuel. Chacun pourra s'inscrire là-dedans. Et cette association familiale protestante fait partie de ce qu'on appelle l'UDAF. C'est l'Union départementale des associations familiales qui a un grand rôle, par exemple, au niveau par exemple, des choix de la CAF. Je vous donne cet exemple, c'est parce que depuis un an, je crois, les camps chrétiens, les colonies chrétiennes n'ont plus droit au bon CAF. Eh bien, ce genre d'association peut dire son mot, et croyez-moi, on est en grand nombre sur le plan national. Ces associations protestantes familiales ont un grand impact. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent au niveau de la CAF, par exemple, parce qu'il y a un grand poids et on a une influence. Donc on a tout intérêt à s'inscrire dans ce genre d'action. Voilà, je vais pas vous embêter bien plus longtemps, mais je vais juste terminer par un texte dans Ésaïe. Et je vais terminer également par un texte qui a été écrit par un prêtre qui s'appelle Guy Gilbert. Vous connaissez peut-être un petit peu, Thierry. Alors, Ésaïe 58. Dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, ne recherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et la restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants, les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Ça vous donne pas envie? Quelquefois, on vit notre foi d'une manière théorique, d'une manière renfermée sur nous-mêmes, stérile, et ça produit rien, et ça finit par mourir, comme disait Jacques. Et il est bon que cette foi soit alimentée par tout simplement une mise en route, et regardez les promesses qui se rattachent au fait d'agir sur la parole de Dieu. Je vous lis juste un texte de Guy Gilbert encore, et puis je vous laisse tranquille. Voilà. Guy Gilbert, qui était un prêtre de rue, si vous voulez, qui, dans les rues, hein, qui a construit une ferme, il accueillait des jeunes loubards, et puis voilà. Dieu seul peut créer, mais tu peux valoriser ce qu'il a créé. Dieu seul peut donner la vie, mais tu peux la transformer et la respecter. Dieu seul peut donner la santé, mais tu peux orienter et guider ou soigner. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner son témoignage. Dieu seul peut infuser l'espérance, mais tu peux rendre la confiance à ton frère. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire à tous. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire des miracles, mais tu peux être celui qui apporte les 5 pains et les 2 poissons. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a préféré compter sur toi. Ça va un peu dans le sens de la prière de Saint François d'Assise que vous connaissez tous, hein. Seigneur, fais de nous des instruments de paix là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette l'espérance, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on prie. Et puis je laisserai Jessica terminer. Seigneur, moi je voudrais te remercier parce que tu nous as sauvés. Nous sommes sauvés uniquement par ton sacrifice, par la foi, Seigneur. Et rien à se glorifier, Seigneur. Tu n'es pas venu à nous parce qu'on faisait de belles choses. Au contraire, Seigneur. Tu nous as cherchés dans notre misère. Et nous sommes sauvés par toi, Seigneur. Mais tu nous as réconciliés. Tu veux réconcilier le monde avec toi-même. Et tu nous impliques dans cette œuvre, Seigneur. Notre foi, c'est vrai, est stérile si elle est remplie de connaissances. Et qu'elle ne rejaillit pas en action, qu'elle ne se met pas en action. Seigneur, aide-nous à sortir de notre sclérose pour Seigneur, nous épanouir nous-mêmes, pour glorifier ton nom. Aide-nous à oser quelquefois, Jésus. Aide-nous à rechercher constamment ta présence, à nous demander toujours quelle est ta pensée, pas la pensée du monde ou de la majorité, mais la tienne. Tu vois au fond des cœurs, Jésus, aide-nous à ressusciter en ce sens, Jésus. Seigneur, tu veux bâtir sur d'anciennes ruines. Seigneur, souffle sur nous, Jésus. Merci de nous aider, Jésus. Tu veux encore glorifier ton nom et te révéler. Merci, Jésus. Amen.